Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai pas mal travaillé, en particulier les questions de début de vie. Donc j'essaierai d'aborder aussi un peu les questions de fin de vie, mais j'ai moins côtoyé en tout cas ces situations en particulier. Et donc voilà, je regardais un peu le titre de ces trois conférences dont a parlé Jean-Noël Dumont, en temps de campagne, quelques points de discernement à l'occasion des élections. Donc c'est vraiment mon but ce soir, c'est voilà de vous partager ma propre réflexion et à partir de ça, d'essayer de vous donner des points de discernement pour susciter chez vous une véritable réflexion sur ces questions qui sont délicates et en même temps hautement d'actualité. Bien sûr, parce qu'il y a eu donc la troisième révision des lois de bioéthique dont vous avez certainement entendu parler, qui a duré presque 3 ans pour nous en France, pour se terminer en 2011 avec une nouvelle loi de bioéthique. Et puis, parce qu'il y a des enjeux politiques, je crois, majeurs pour la société de demain, pour la manière dont on veut penser la société. Et c'est vrai que ces questions sur la vie, un choix inconditionnel, voilà, ça rejoint vraiment profondément le soubassement de ce qu'on veut faire ensemble dans notre société française, entre autres. Voilà. Pour situer mon propos, j'avais envie, dans un premier temps, de reconnaître, je crois, un soubassement qu'on peut qualifier d'universel, en tout cas dans une condition de vivre ensemble, qui est le principe du droit à la vie pour tout individu. L'interdit de tuer, si on veut une formulation sous forme d'interdit, formulation négative. Voilà, je crois que quasiment toutes les sociétés acceptent et reconnaissent cet interdit du meurtre et ce droit à la vie, cette obligation légale de respecter la vie de tout homme et que c'est une des conditions pour vivre ensemble en société, une des conditions pour se faire confiance, une des conditions voilà pour être ensemble dans une même société. Bien sûr, on pense d'emblée aux religions monothéistes. Les trois grandes religions monothéistes affirment cet interdit. Tu ne tueras pas. Ça fait partie, je crois, de nos trois... On peut se reconnaître dans ces trois grandes religions à partir de ce principe que la vie d'un être humain est sacrée, qu'à chacune de ses étapes, il convient de la respecter et qu'en conséquence, personne n'a le droit de mettre à mort autrui, de tuer autrui, même sur sa demande. En particulier, donc, dans le christianisme, je crois que c'est important de rappeler d'emblée que pour les chrétiens, pour nous chrétiens, la vie est vraiment quelque chose qui est reçu de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître même de notre propre vie. C'est un don de Dieu. Et ça, c'est vrai pour les judéo-chrétiens. Et pour le christianisme en particulier, on est vraiment façonné par le fait que non seulement Dieu nous donne la vie au moment de la création, et la création qui continue pour chacun de nous aujourd'hui, mais sur le fait que cette vie humaine, elle a vraiment été assumée pleinement par le Fils de Dieu. Et ça aussi, ça va façonner la manière dont on va concevoir la personne, puisque même le Fils de Dieu a assumé jusqu'au bout la vie de l'homme, non seulement l'a assumée, mais a traversé la souffrance jusqu'à la mort sur la croix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonde notre société, enfin nos religions d'abord. Et puis au niveau de la société aussi, je crois que maintenant, on pense d'emblée... bien sûr, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Donc, on se reconnaît tous dans cette Déclaration universelle. De même, au niveau de l'Europe, une convention qui a été votée, érigée après les deux guerres mondiales importantes, où dès l'article 2, on dit voilà, le droit à la vie, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Et enfin, en France, on rappelle que l'article 16 du Code civil, et même il y a eu des discussions pour le mettre dans le préambule de notre Constitution, le fait que la loi française assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Voilà, je crois que nos législations insistent sur le fait que notre société est fondée sur l'interdit du meurtre, sous une forme plus négative ou sous une forme positive sur le droit et l'absolue nécessité de respecter la vie de tout individu. Et en même temps, dans un même mouvement, d'emblée, on est invité, peut-être ça vous vient d'emblée à l'esprit, qu'il existe des exceptions dans l'histoire à ce principe fondamental de respect de la vie de l'autre. Entre autres, on pense bien sûr aux situations de guerre, où là, le soldat a le droit, d'une certaine manière, où il lui est reconnu le droit de tuer. On pense aussi à la légitime défense. De même, la législation accepte que dans ce cadre-là, la personne, si elle arrive à prouver qu'elle était en danger de vie, elle a le droit, il est reconnu, qu'elle peut être amenée à tuer. On pense aussi à la peine de mort, même si, de fait, un certain nombre de nos États maintenant ont renoncé à ce mode de sanction pénale. Mais il y a eu dans l'histoire des exceptions à cet interdit, des exceptions à ce principe fondamental de respect du droit de la vie. Alors justement, il me semble, justement, j'avais envie de situer les questions actuelles qui tournent autour du début de la vie et de la fin de la vie dans ce prolongement. Avec toute la question, est-ce que finalement, on pourrait aujourd'hui reconnaître de nouvelles exceptions? Est-ce que les lois ont le devoir aujourd'hui de reconnaître de nouvelles exceptions à ce principe du respect de la vie? Et c'est vrai que... Je crois que du fait de la prodigieuse avancée de la médecine en particulier, il y a des nouveaux domaines, des nouvelles situations qui viennent nous interroger, qui viennent interpeller ce principe absolu et inconditionnel du droit à la vie. La première situation, c'est tout ce qui touche au début de la vie. La situation très particulière de l'embryon, alors qu'il soit in vitro ou in vivo, donc in vitro... en dehors de l'utérus maternel et puis in vivo dans le ventre de la mère, la situation du fœtus dans le ventre de sa maman. Donc tout ce temps qui précède la naissance et qui va beaucoup interroger aujourd'hui notre société du fait des grandes avancées de la médecine. Je parlais tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un jour, j'avais repéré que c'était vraiment pas sa question, ce qui précédait la naissance. Si vous regardez cet article 1 qu'on connaît un peu tous par cœur, il est dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, en dignité. » Voilà. Donc on sent que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la question de ce qui précédait la naissance n'était encore pas d'actualité. Ce qui a changé pour nous aujourd'hui, c'est que on a maintenant beaucoup plus accès, bien sûr, à cette période-là. Et je vais revenir sur ces questions-là. Mais voilà, tout d'un coup, on sent que on se situe à un autre moment de toute existence humaine. C'est ce temps très particulier qui précède la naissance et qui va nous interroger sur, voilà, qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire vis-à-vis de cet être en devenir dans le ventre de la maman ou dans des boîtes de pétri pour l'embryon in vitro. Par rapport à cette question de la naissance, vous pensez peut-être aussi d'emblée que depuis les lois sur l'avortement, depuis la loi Veil en particulier en 75, on a déjà... En tout cas, la législation française et d'autres pays ont déjà introduit un principe d'exception au respect de la vie avant la naissance, en introduisant donc une exception légale avec l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est intéressant de rappeler à quel point la loi française s'est vraiment située dans ce domaine de interdit de tuer, mais une exception dans le cadre de l'IVG. Puisque l'article 1 de cette loi de 75 rappel d'emblée, le tout premier article dit « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. » Donc elle commence vraiment en redisant ça, cette affirmation. « Mais il est possible de porter atteinte à ce principe en cas de nécessité et selon les conditions définies par la loi. » Voilà, donc elle se situe vraiment, la loi française au sujet de l'IVG a vraiment choisi de se situer dans ce interdit, mais certaines conditions pourront susciter des exceptions. Et donc les exceptions, on les connaît, la situation de détresse de la mère avec un délai, un terme, c'est-à-dire que la mère, en situation de détresse, peut décider par elle-même d'interrompre sa grossesse. D'abord, c'était 10 semaines de grossesse, et puis, depuis 2001, on a augmenté à 12 semaines de grossesse. Une autre circonstance, mais je reviendrai plus tard, c'est en cas de pathologie, de maladie pour la mère ou pour le fœtus, où là aussi, il y a une autorisation légale à rompre ce principe d'interdiction du respect de la vie du fœtus. Et en même temps, donc ça c'était en 75, aujourd'hui en 2012, et puis depuis quelques années déjà, il y a de nouvelles questions qui ont émergé au sujet de cette vie avant la naissance, qui sont la question cruciale des embryons in vitro. Donc c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu plus, vous expliquer là où on en est aujourd'hui. Et puis la question de tous ces fœtus chez qui on découvre une pathologie, une maladie, et qui va poser la question de est-ce qu'il y a des conditions des critères chez le fœtus qui pourraient autoriser, au moins au niveau de la loi, à interrompre la grossesse. Et ça, c'est vraiment des questions qui sont au cœur de ce qu'on appelle les lois de bioéthique. Depuis 94, c'est vraiment les questions centrales des lois de bioéthique en France, en tout cas. Et puis, il y a un deuxième domaine, donc j'ai évoqué, c'est cette situation très particulière de la fin de vie. C'est aussi une conséquence des progrès de la médecine. On en arrive à des personnes qui, voilà, qui sont en fin de vie et en même temps qui, j'ai envie de dire, qui ne meurent pas. Ou qui sont dans des situations de handicap qui sont pas mortelles à court ou moyen terme, et en même temps, chez qui naît la question, alors on essaiera de voir de qui vient la question de l'euthanasie, la question d'anticiper la mort, la question d'une mort plus active. Et donc ça nous interroge, nous, de dire, mais est-ce qu'il est recevable au niveau d'une société de reconnaître des critères qui pourraient autoriser un acte euthanasique dans ces cas-là? Voilà, je crois que c'est des questions. Pourquoi ces questions sont intéressantes en temps de campagne? C'est parce que je crois que c'est des questions qui ont de tout temps habité la conscience humaine. Je trouve les questions d'interruption de grossesse, ça c'est pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est le fait que maintenant il y a une dimension collective, une dimension politique. Le fait que on sent bien qu'il y a tout un enjeu de société sur la manière dont nos sociétés vont répondre à ces questions cruciales. Que faisons-nous de nos vies naissantes, de nos vies, pas naissantes justement, de nos vies qui commencent in utero? Que faisons-nous de nos citoyens malades et mourants? Et c'est en ça que je crois que nous, chrétiens, que les chrétiens sont vraiment invités à se positionner aussi dans cette dimension collective, avant même d'être confrontés à cette question nous-mêmes, qui est encore une autre démarche. Voilà, on a vraiment un rôle dans le fait de dire, mais... qu'est-ce qui nous paraît important? Sur quels critères on va pouvoir légiférer ou non? Et je cite très simplement, Monseigneur 23 vient d'écrire un livre, d'éditer un livre, où justement, dans ce contexte de la campagne, il dit « Quelle société pour demain ?» Je trouve ce titre intéressant parce que justement, il essaye de reprendre. Et on sent que l'Église catholique, me semble-t-il, a vraiment le souci de former, de nous former, pour justement essayer d'apporter peut-être une sève nouvelle, quelque chose de nouveau, sur ces dimensions très collectives et politiques de toutes ces questions. Alors, j'ai essayé de présenter les choses, en particulier les deux premiers domaines, sur la question de l'assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal, en vous donnant quand même quelques repères plus médicaux, scientifiques. Ça me paraît vraiment important, quand on essaye de comprendre ce qui se passe, voilà, de bien être au courant des enjeux, aussi de la dimension peut-être plus technique des actes, ce qui nous permet de réaliser à la fois la complexité du problème soulevé et à la fois d'y réfléchir plus précisément. Donc je commencerai par l'assistance médicale à la procréation. On parle aussi d'AMP, c'est les initiales. Alors cette assistance médicale à la procréation s'est développée depuis une trentaine d'années en gros, et c'est une proposition pour les couples stériles, ou pour les couples, je dirais davantage, en situation d'infertilité. Ça, c'est important, parce que dans la majeure partie des cas, ça concerne des couples chez qui on n'a pas pu diagnostiquer une stérilité avérée, objectivement, médicalement parlant. Au tout début, l'AMP était vraiment ciblée pour les personnes chez qui on était certain d'une stérilité. Aujourd'hui, c'est vraiment un couple qui peut prouver une vie commune depuis un certain temps et qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Il peut avoir recours à l'AMP, même si voilà, ça peut être pour diverses raisons qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc l'AMP est considérée comme la réponse de la médecine pour répondre à la souffrance de ne pouvoir satisfaire leur désir d'enfant. La question qui vient alors d'emblée, c'est comment, paradoxalement, on part d'un couple qui peut pas avoir d'enfant, qui ne peut pas satisfaire son désir d'enfant, et on arrive avec, au niveau de la société, une production d'embryons en trop, ou d'embryons en quantité importante. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Mais c'est paradoxal de se dire qu'au départ, il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui un jour vont être amenés à se poser la question parce qu'ils ont trop d'embryons fécondés et que qu'est-ce qu'on va faire de ces embryons qui arrivent. Alors d'abord, j'aimerais que on reconnaît qu'il y a une graduation, me semble-t-il, dans cette assistance de la médecine envers la souffrance des couples. Une graduation selon, à mon sens, deux critères. Le premier critère, ce sera en fonction du degré d'intervention de la médecine dans la satisfaction du besoin ou du désir d'avoir un enfant. Et la deuxième, c'est en fonction ou non de l'intervention d'un tiers extérieur donneur de gamètes. Donc c'est là aussi, il y a deux interventions possibles de la médecine. Alors, en fonction du degré d'intervention de la médecine, il y a d'abord un premier domaine qui est, j'appellerais ça, du domaine du curatif, c'est-à-dire l'intervention thérapeutique, qui vient vraiment soigner la femme, l'homme ou les deux, en vue de rétablir un acte procréateur fécond. C'est soit, ça peut être des interventions chirurgicales, ça peut être des traitements ponctuels, hormonaux, autres, des obstructions des trompes, enfin voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est important de repérer que dans le cadre des assistances médicales à la procréation, il y a une part qui est d'ordre curatif, qui vient rétablir la fécondité naturelle, en fait. Donc ça, je crois, pourquoi c'est important de le repérer? Parce que il s'agit pour nous d'encourager cette partie de l'AMP qui est vraiment dans le traitement, dans le curatif. Et en particulier, par exemple, financièrement, d'encourager à ce que il y ait des recherches dans ce domaine. Et un des dangers, je crois, c'est qu'on risque parfois de privilégier, vous allez voir plus loin, les autres méthodes d'AMP qui sont plus de fécondation in vitro, entre autres, dans les budgets accordés, alors au détriment, je crois, de tout ce qui est de l'ordre du curatif. Voilà, le but de la médecine, je crois, c'est quand même de guérir, d'aider les couples à pouvoir retourner et avoir des bébés tout seuls. Voilà. Donc ça, c'est la dimension plus curative, et elle est importante, en particulier sur les questions de stérilité masculine. Parce que je crois qu'on est vraiment confronté, et pour l'instant, on sait encore quand même vraiment pas quelle est la cause, mais de plus en plus de causes de stérilité sont des problèmes d'infertilité masculine. Et c'est là où vraiment, je crois, il faut encourager la science à faire des recherches dans ce domaine-là pour aller plus loin, pour mieux comprendre. Donc ça, c'était le domaine du curatif. Ensuite, il y a ce que j'appellerais l'intervention médicale qui est d'ordre palliatif. C'est-à-dire que la médecine va intervenir pour se substituer à l'acte procréateur. Et donc ça veut dire qu'elle va devoir systématiquement, pour chaque nouvel enfant, entre guillemets, être présente et participer. Il n'y a pas de traitement. Elle vient remplacer, en fait, l'acte, la fécondité. Là aussi, on peut voir au moins deux méthodes différentes. La première, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Donc ça, c'est une méthode qui est très très ancienne, où le tiers médical dépose lui-même dans l'utérus de la femme les gamètes de l'homme. Donc dans cette technique, ce qui est important de reconnaître, c'est que elle n'implique pas ni fécondation ni manipulation d'embryons in vitro. C'est-à-dire que voilà. Il y a une extériorisation, il y a intervention d'un tiers extérieur, mais il n'y a pas de fécondation ni d'embryon qui interviennent in vitro à ce moment-là. C'est une méthode qui est proposée parfois, mais qui l'est de moins en moins, en fait. Qui est de moins en moins proposée parce qu'elle a un très faible taux de réussite. C'est de l'ordre de 10-15% pour chaque tentative. Donc, de fait, enfin moi j'ai fait un stage dans un centre d'AMP ici à Lyon, et de fait on sent que de moins en moins elle est proposée parce que la fécondation in vitro sera plus efficace, même si elle gardera un pourcentage encore faible, mais elle paraît plus efficace. Donc ça c'était l'insémination artificielle où il n'y a pas de manipulation d'embryon. Et donc on en arrive à la fécondation in vitro, où là pour le coup il y a vraiment dissociation, non seulement entre procréation et sexualité, mais entre procréation, sexualité et conception et gestation. Donc c'est celle qui va nous poser le plus de questions parce que là, il y a vraiment manipulation d'embryons et fécondation hors de l'utérus féminin. Dans la fécondation in vitro, en fait, en deux mots, il y a une stimulation hormonale importante de la femme en amont, et puis ensuite, sous anesthésie, on lui ponctionne des ovocytes. Et en parallèle, on recueille les gamètes du père, et c'est le laborantin, donc dans le laboratoire, qui va, le médecin biologiste, qui va mettre en présence les ovocytes et les gamètes. Donc, les gamètes masculins et les gamètes féminins. Cette mise en présence, au début, quand on a découvert la fécondation in vitro, elle se faisait de façon la plus basique possible, c'est-à-dire simplement dans une boîte de pétri, on mettait en contact des gamètes et des ovocytes. De plus en plus, le médecin biologiste intervient dans la fécondation, entre autres, par exemple, avec des méthodes, ce qu'on appelle l'ICSI, bon, c'est, peu importe, mais, par exemple, où, en fait, c'est le biologiste laborantin qui va choisir lui-même le spermatozoïde à mettre en contact avec l'ovocyte. Et puis même, on est en train de développer une pratique où il y aura des critères morphologiques précis pour déterminer, pour mettre en contact le bon spermatozoïde, pour augmenter toujours davantage les chances de réussite. Voilà, donc il y a une sélection toujours plus importante à ce niveau-là. Ensuite, les embryons fécondés sont cultivés in vitro pendant à peu près, ça dépend, c'est très variable, mais entre quelques jours jusqu'à maximum une dizaine de jours. Et on en féconde, c'est ce que je disais tout à l'heure, un maximum, c'est-à-dire entre, le plus souvent, on arrive quand même entre 10, 12, voire une vingtaine d'embryons fécondés. Et puis au bout de quelques jours, donc, il y aura un transfert dans l'utérus féminin d'un ou deux embryons fécondés, et puis congélation des embryons qui seront dits surnuméraires. Pour que le but de la congélation de ces embryons, c'est que s'il y a un échec de la fécondation in vitro, eh bien on peut refaire un transfert chez la femme sans avoir à repasser par une stimulation hormonale importante. Alors, il faut savoir que cette fécondation in vitro, elle a, je disais tout à l'heure, elle a un pourcentage de réussite qui est plus important que l'insémination artificielle, mais ça reste encore faible, c'est 20-25%. Donc, c'est quand même une femme, enfin un couple sur quatre qui réussit à avoir un enfant de cette manière-là par tentative. Donc, c'est quand même encore assez exigeant et assez lourd pour le couple. Par exemple, les statistiques montrent qu'en fait, il y a à peu près 40% des couples qui renoncent, même s'ils n'ont pas eu d'enfant, après une ou deux tentatives. Donc c'est quand même vraiment encore un parcours qui est éprouvant. Même si les médias nous font miroiter quelque chose d'assez magique, pour le couple, c'est quand même vraiment éprouvant. Et il y a des études maintenant de plus en plus qui mettent en place une prise en charge psychologique, un accompagnement pour ces couples, parce que c'est quand même une épreuve. Je parlais tout à l'heure de la sélection toujours plus grande du spermatozoïde ou de l'ovocyte. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Alors c'est très spécifique, peut-être vous en avez entendu parler. C'est dans le cadre des couples qui sont porteurs d'une maladie génétique reconnue et pour lesquels on va faire une sélection sur les embryons fécondés pour ne leur transférer que les embryons qui seront sains, qui seront pas atteints d'une pathologie. Donc ça, c'est une sélection encore plus importante. Dans ce cadre-là aussi, de la sélection sur les embryons fécondés, on peut parler de revendications de certains médecins qui revendiquent de faire, par exemple, un test de trisomie 21 tout de suite sur ces embryons in vitro, en disant que c'est aberrant que dans notre système, on peut en parler plus tard, mais que on transfère des embryons qui sont peut-être porteurs de la trisomie 21 et qui du coup risquent ensuite ultérieurement pendant la grossesse d'être soumis à une interruption médicale de grossesse. Enfin, voilà, donc le paradoxe. Tout ça pour dire que voilà, on sent quand même que plus on avance et plus, par souci de réussite, par souci d'être le plus efficace possible, on est amené à sélectionner au niveau des embryons in vitro le meilleur entre guillemets, ou en tout cas celui qui présente les critères les plus objectivement bons. Quelques chiffres simplement. Le recours aux assistances médicales à la procréation, c'est à peu près 2,5% des naissances en France aujourd'hui. À peu près 6000 inséminations artificielles, 6000 enfants nés par insémination artificielle, 15000 enfants nés par fécondation in vitro. Donc 2,5% des naissances. Certaines études disent que dans les 10 années à venir, ça va monter jusqu'à 10%. Après, il faut voir, hein. Pour l'instant, on avance pas à pas. Donc, je disais, un autre critère de graduation, c'est ce qu'on appellera l'AMP. Donc là, c'est le cadre de l'AMP homologue, c'est-à-dire qui est au sein du couple, au sein de les comment dire, les parents biologiques, le père et la mère biologiques seront aussi les parents de l'enfant. C'est le plus souvent. Ça représente 93% des situations. Donc c'est les plus fréquentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation dans la filiation. Les gamètes sont les gamètes du couple parental. Mais il y a aussi un certain nombre de situations où ce qu'on appellera une AMP hétérologue, c'est-à-dire qu'il y a intervention d'un tiers donneur, un tiers donneur de gamètes. Et donc là, on introduit quelque chose de nouveau qui est une discontinuité dans la filiation, puisque le plus connu, c'est le don de spermatozoïdes, parce que c'est le plus facile à réaliser. Mais de plus en plus, on développe le don d'ovocytes. Ça aussi, ça a posé pas mal de questions dans les lois de bioéthique récentes, puisque la France, pour le don d'ovocytes, souhaite rester dans le domaine de la gratuité et de l'anonymat, et que ça s'est remis en cause, parce que du coup, elle a moins d'ovocytes à donner que d'autres pays limitrophes. Mais on va pas rentrer dans ces questions. Et puis, le don d'embryons. Donc ça, ça se développe aussi. C'est-à-dire que là, non seulement... Ben voilà, c'est pas un seul donneur extérieur, mais c'est deux donneurs. Un donneur de spermatozoïdes, un donneur d'ovocytes. Donc ça, c'est important dans le sens où ce qui est intéressant de repérer là, c'est que pour le monde médical, ça fait aucune différence d'utiliser les gamètes du couple parental, du couple procréateur, ou d'utiliser d'autres gamètes. Mais pour le couple et pour l'enfant à naître, il y a une radicale différence qui est importante de réaliser. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était juste pour vous faire comprendre un peu les différences. Je crois qu'on va s'arrêter davantage sur la question justement du titre, enfin de cette question du début de la vie et qu'est-ce qu'on fait de ces nombreux embryons, de ces vies humaines qui commencent et pour lesquelles, pour un certain nombre, il n'y a pas d'avenir. Justement, ça va être la grosse question. Avec cette situation paradoxale dont je parlais tout à l'heure, où des couples qui au départ étaient en souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants et qui se retrouvent à devoir décider sur le sort de leurs embryons surnuméraires. Il faut savoir par exemple que fin 2008, il y avait à peu près 150 000 embryons congelés. Et on suppose que ça augmente de 20 à 25% par an. Donc on a vraiment un stock d'embryons congelés qui est conséquent, sachant que pour ces embryons, il y a 4 choix possibles en fait. Le premier choix, c'est bien sûr la poursuite du projet parental, c'est-à-dire les parents qui n'ont pas réussi à avoir un enfant ou qui en veulent un autre, bien sûr. À ce moment-là, on parlera des embryons dont le projet parental est en cours, et donc pour ces embryons-là, il n'y a pas de question particulière. Mais s'il n'y a plus de projet parental en cours, à ce moment-là, il y a 3 possibilités qui s'offrent au couple. Le premier, c'est le don à un autre couple, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le don d'embryon, mais c'est très faible en fait. Aujourd'hui, en France, c'est encore quelque chose d'assez faible. Ensuite, il y a 2 possibilités, soit leur destruction pure et simple, soit leur destruction par le don de ces embryons à la recherche. Sachant que les couples vont recevoir tous les ans une lettre du SECOS qui les invite à se positionner. Alors, j'ai envie de dire quelques mots sur la recherche sur ces embryons. Il faut savoir que les cellules embryonnaires, elles ont des capacités d'immortalité et une capacité de se différencier qui est bien plus importante que n'importe quelle de nos cellules adultes à nous. Et c'est pour ça qu'elles suscitent un intérêt majeur pour les scientifiques. Le but, c'est de créer des lignées tissulaires, en fait. L'idéal, ce serait, pour l'instant, la perspective, ce serait de créer une banque de lignées de tissus qui permettrait ensuite d'aller se servir quelque part, enfin, ou en tout cas d'avoir des réserves de cellules tissulaires qui pourraient être très utiles. Et c'est vrai que cette recherche fait miroiter de nombreux espoirs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre un peu parler dans les médias, ou de temps en temps, tout d'un coup, on a l'impression que la recherche sur la cellule embryonnaire va guérir de nombreuses pathologies. Je crois que dans un premier temps, cette recherche à court terme, elle est surtout de l'ordre de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que c'est une recherche qui permet une meilleure compréhension des mécanismes cellulaires. À plus long terme, c'est plus compliqué. Les chercheurs espèrent bien sûr pouvoir proposer des traitements, en particulier ce qu'on appelle la thérapie génique ou la thérapie tissulaire, à partir de ces cellules embryonnaires, Mais il faut savoir que pour l'instant, il y a encore eu aucun essai thérapeutique. Il y en a un qui a été tenté l'année dernière aux États-Unis, mais il me semble, d'après ce que j'ai lu récemment, qu'il a été arrêté. Hein. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais voilà, c'est tout un domaine où, pour l'instant, c'est essentiellement de l'ordre de l'espoir. Entre autres, il y a un laboratoire très important qui s'appelle l'ISTEM, qui est sur le Génopôle d'Evry, dans la banlieue parisienne, et qui travaille sur des maladies très très spécifiques, des pathologies assez rares, grâce à la recherche sur les cellules embryonnaires. Mais on entend aussi parfois les médias nous dire que ça traitera un jour le diabète, l'infarctus du myocarde, la maladie de Parkinson. Donc voilà. Par rapport à ça, j'aimerais peut-être vous inviter à une vigilance par rapport à la médiatisation de ces recherches. C'est sûr que quand on parle de diabète, maladie de Parkinson et infarctus du myocarde, on touche à peu près 90% de la population qui peut être concernée par ces questions-là. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Voilà. Peut-être qu'un jour, mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. Donc, il y a un peu une tendance à idéaliser les projets, les progrès possibles à partir de la recherche sur les cellules embryonnaires. Il y a Marc Péchanski, qui est le directeur de l'ISTEM, qui est un des grands pontes dans la recherche de cellules sur l'embryon, qui un jour parlait de la cellule embryonnaire comme le Saint Graal des chercheurs. Et je trouvais cette manière de présenter les choses, c'était une audition parlementaire pour la révision des lois de bioéthique, je trouvais intéressant parler du Saint Graal. On sent bien qu'il y a toute une dimension un peu mystique, ou en tout cas du rêve, de l'interdit transgressé, enfin voilà. Et voilà. Pour l'instant, je crois que c'est encore quand même de ce domaine-là. Alors, je ne sais pas ce qui sera l'avenir, mais il faut savoir aussi qu'il y a des enjeux économiques, en fait, majeurs derrière ces questions de recherche sur l'embryon. Entre autres, par exemple, parce que c'est l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui est très intéressée par la recherche sur l'embryon. Pour une raison, entre autres, toute simple, c'est que, malheureusement, l'embryon humain est moins cher que l'embryon animal, par exemple. Puisque l'embryon animal, il faut élever des animaux. Enfin voilà, il y a toute une prise en charge du rat ou de la souris. Donc voilà, il y a des intérêts et des enjeux économiques assez importants. Et c'est vrai que pour avoir regardé pas mal de chercheurs au moment des auditions parlementaires, c'est vraiment l'argument économique qui revient très souvent en balance. Et puis enfin, pourquoi nous inviter à la vigilance par rapport à la recherche sur l'embryon ? C'est qu'il existe d'autres cellules non embryonnaires qui sont aussi des cellules souches et qui ont des capacités similaires. Entre autres, il y a quelques années, enfin il y a déjà une dizaine d'années, je sais plus, il y a les cellules qu'on appelle iPS, bon, qui ont été découvertes et qui réellement ont des possibilités de recherche et thérapeutiques qui semblent similaires à celles de l'embryon. Et par exemple, j'ai entendu dire, ce sera à vérifier, qu'au Japon, ils ont quasiment arrêté la recherche sur l'embryon, les cellules embryonnaires, pour mettre tout leur fonds sur la recherche sur ces cellules iPS. Alors en France, on va dire qu'on a besoin d'être complémentaires. Alors ça, il faudrait être chercheur sur l'embryon pour vraiment vérifier. Mais voilà. Donc, la question qui se pose, c'est face à ces embryons in vitro en trop, donc je disais trois choix. Trois possibilités pour les embryons qui sont sans projet parental, le don ou la destruction simple ou la destruction par la recherche. Et je crois que c'est vraiment une question éthique qui est posée à notre société et à chaque couple. La première question qui vient, je crois, pour nous, c'est comment considérer ces embryons ? Quel est leur statut finalement ? Puisqu'ils sont nouveaux, c'est nouveau d'avoir comme ça des embryons à portée de main, je dirais. Comment les regarder, comment les considérer, comment penser cet être embryonnaire, cette vie humaine qui commence. Est-ce qu'il y a des stades? Est-ce qu'on pourrait reconnaître des stades différents? À partir de quand invoquer, ce que j'évoquais tout à l'heure, le respect inconditionnel de leur vie? Et puis, peut-être aussi, quel est notre agir envers eux? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles leur congélation, leur destruction pourrait être considérée comme moralement bonne, ou au moins comme moralement acceptable, ou comme un moindre mal. Alors au sujet du statut de l'embryon, c'est pas évident. Enfin, pour l'instant, on avance, on tâtonne, je crois. On peut dire qu'il se situe, entre guillemets, entre chose et personne. C'est vrai qu'il peut pas être une chose. Il y a une vie. C'est évident qu'il y a une vie qui commence. A priori une vie humaine, mais ça, tous ne se l'accordent pas. Mais que ça ressemble en rien aux définitions de la personne humaine, aux définitions physiologiques, philosophiques. C'est vrai que au départ, c'est quelques cellules, on parle d'une morula, une petite mûre de 2 mm de diamètre, même pas. Donc voilà, ça c'est un embryon. Alors, parfois je montre à des jeunes, je montre des photos. C'est vrai que ça n'a rien d'une personne humaine telle qu'on peut l'imaginer ou telle qu'on peut la définir. Et donc pour certains, ils parlent d'un simple amas de cellules en développement à ce moment-là. Est-ce qu'il faut parler plutôt de quelque chose qui est proche de l'animal ? C'est vrai que l'aspect d'un embryon d'homme, au tout premier moment de son développement, il se distingue très peu de celui de l'embryon de la souris ou d'autres animaux. La seule différence, ce sera son capital génétique qui est enfoui dans la cellule et qui, lui, va signifier la différence entre les deux. Donc c'est vrai que, par exemple, au Comité national d'éthique, ils ont parlé dans les derniers travaux, entre autres le travail de Xavier Lacroix au sein de cette petite commission, il parlait assez facilement de vie humaine commencée, ou de corps embryonnaire en développement. Alors, il parlait aussi de personnes potentielles. Voilà, il y a cette notion de quelque chose en devenir, qui a toutes les potentialités, et en même temps qui n'est pas encore vraiment caractérisable d'une personne. Donc se pose alors la question, mais est-ce que il serait envisageable de définir clairement, objectivement, un moment, un seuil, où là, l'embryon deviendrait vraiment humain ? La tentative, ce serait de définir un seuil d'abord biologique, à partir de stades de son développement. Et c'est vrai que, alors en médecine, on étudie les différents stades de l'embryogenèse, donc le stade au début des quelques cellules, puis le moment un peu particulier des 8 cellules, où là l'embryon devient vraiment un être unique à part entière, et c'est le début de son individualité. Ensuite, il y a le stade des différents tissus qui apparaissent. Voilà, il est possible de reconnaître des stades. Un autre stade important, c'est le moment de l'implantation. Donc, vous savez peut-être qu'il y a la migration dans les trompes de la femme, puis il y a un moment où l'embryon s'implante. Donc quelque part, à ce moment-là, débute une vie relationnelle, qui pourrait peut-être caractériser quelque chose de l'ordre de la personne à ce moment-là. Donc voilà, au niveau biologique, il y a des tentatives pour essayer de définir un stade où l'embryon deviendrait humain. Et en même temps, plusieurs articles de biologistes disent que cette tentative de donner des stades ou de donner un moment crucial où l'embryon deviendrait humain, en fait, c'est pas fiable, c'est pas respectueux. Parce qu'en fait, il y a un moment où apparaît quelque chose de significatif, mais il était en germe, il était en développement dans ce qui a précédé. Et donc, c'est difficile de dire... Donc, au niveau biologique, je crois qu'il y a vraiment cette notion de continuum de vie à partir du moment de la fécondation et ce jusqu'à la naissance. Et donc, privilégier un stade, ça relève plutôt d'une décision, d'un choix, d'une décision d'ordre peut-être plus philosophique. En tout cas, pas d'ordre biologique ni scientifique. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus, je dirais pas arbitraire, mais en tout cas qui relève d'une décision. Ce qui fait que ça nous pousse à nous intéresser plutôt à, puisqu'on n'arrive pas à définir un statut, à nous intéresser sur notre agir envers lui. Puisque rien ne s'impose, il va falloir qu'on définisse de quelle manière on va se situer par rapport à lui, de quelle manière on va agir envers lui. Et c'est un peu dans ce sens-là que les différentes législations ont pu se positionner, en tout cas ces dernières années. Au niveau européen, par exemple, il y a eu une convention importante qui s'appelle la Convention d'Oviedo, et qui, elle, se situe pour toujours situer l'embryon fécondé uniquement dans le cadre d'un projet parental. Donc là où elle est radicale, la Convention européenne, c'est qu'elle refuse toute création d'embryon pour la recherche. Et ça, c'est déjà important, et on reviendra là-dessus, mais c'est important, en tout cas par exemple aussi dans la loi française, c'est que on ne crée pas d'embryon dans le seul but de la recherche. à travers ça, ce qui est important, c'est qu'en fait, on considère que c'est pas une chose. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même quelque chose de respectable et que, qui doit être dans le cadre d'un projet parental. Mais ensuite, la convention d'Oviedo, elle se mouille pas davantage puisqu'elle dit que pour tout le reste, ça relève des États. Alors, un exemple intéressant, je crois, c'est la situation de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, d'abord, ils se sont positionnés très tôt, dès les années 80-85. Et eux, ils ont choisi un critère biologique, un critère anatomique pour réguler l'agir. Et donc, eux, ils parlent du pré-embryon, sur lequel, en gros, tout est permis, et de l'embryon. Et ce critère biologique qu'ils ont choisi, c'est le moment de l'apparition de la ligne, ce qu'on appelle la ligne primitive, ou la gouttière primitive, qui en fait correspond au début de l'évolution de la moelle épinière. Donc ils ont pris le critère du système nerveux central, en fait, pour dire, à partir de ce moment-là, ça devient une vie humaine à respecter comme une personne. Mais avant ce stade, qui est à peu près 10-14 jours, en gros, plutôt 14-15, avant, on parle de pré-embryon, et là, tout est permis. Donc vous avez peut-être entendu parler, par exemple, que même en Angleterre, ils n'hésitent pas à faire des embryons hybrides. On a entendu parler récemment, peut-être un an ou deux, où ils essayaient des tentatives de créer des embryons avec des embryons humains en mélangeant avec un autre animal, par exemple. Parce que pour eux, pour la loi anglaise, avant 14 jours, c'est un pré-embryon et on peut tout faire. Donc on peut créer des embryons pour la recherche. Voilà, on les considère comme on peut tout faire sur eux. Donc, ils ont vraiment choisi ce critère et c'est intéressant de voir à quel point chez eux, ça leur permet du coup une grande liberté, alors après à discuter, mais une grande liberté vis-à-vis de ce pré-embryon. Mais en même temps, voilà, ça pose la question de ce seuil assez arbitraire de l'apparition du système nerveux central. Pour la loi française, donc la France a aussi été assez précurseur dans la législation, puisque c'est dès 94 et puis grâce aux travaux du Comité consultatif national d'éthique que la France s'est positionnée sur la question de l'embryon. Alors les points clés de la législation, c'est que elle est comme la Convention européenne, elle interdit toute création d'embryons pour la recherche. Elle interdit aussi la recherche sur l'embryon. Donc ça a été une des grosses questions au moment de la révision des lois de bioéthique l'année dernière. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si elle allait autoriser la recherche sur l'embryon ou poursuivre un régime d'interdiction. Beaucoup de chercheurs avaient milité pour que on lève l'interdit. La France a demeuré dans cette notion de interdiction avec quelques dérogations. Mais du coup, des dérogations qui sont soumises à une véritable étude de l'Agence de la biomédecine. Donc ça, je pense que ce sera une des questions cruciales pour les années à venir. C'est est-ce qu'on continue à maintenir un système d'interdiction qui a quand même le mérite de dire que l'embryon, c'est pas n'importe quoi et que on peut pas faire n'importe quoi avec, ou est-ce qu'on passe à un système plus souple d'autorisation? Et puis enfin, la France, elle a toujours cherché à encadrer strictement la fécondation d'embryons in vitro. Par exemple, elle rappelle que ça concerne un couple, homme et femme, que c'est un couple qui doit être vivant, en âge de procréer, marié ou pouvant apporter la preuve d'une vie commune depuis plus de 2 ans. Donc voilà, la production ou la fécondation d'embryons est très limitée dans le cadre du couple parental. Alors par rapport au devenir des embryons fécondés, la clé de voûte de la loi française, c'est la notion de projet parental. Et c'est intéressant de s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que c'est ça qui va nous poser question, en tout cas dans une perspective chrétienne. C'est pour la loi française, le devenir, le sort de ces embryons, il va dépendre directement du projet, donc de la volonté, du choix des parents sur les embryons. Donc d'une certaine manière, on peut dire que l'embryon est quelqu'un à partir du moment où il a un avenir dans la tête de ses parents. Comme si l'être embryonnaire était déterminé en fonction du regard qu'on pouvait porter sur lui. Et donc, d'une certaine manière, soit l'embryon a un projet parental qui repose sur lui, à ce moment-là, il a un avenir, il sera respecté comme une personne, soit il n'y a plus de projet parental, et à ce moment-là, on peut, en gros, en faire ce qu'on veut, en tout cas le détruire ou le donner à la recherche. La destruction, en tout cas, ne pose plus de problème. Donc c'est vraiment axé sur cette notion du regard que les parents ou le couple parental va porter sur ces êtres embryonnaires. Je crois que ça pose d'abord une question plus d'ordre philosophique, c'est est-ce que on peut définir l'être de quelqu'un ou un être humain à partir d'un regard ou d'un projet qu'on pose sur lui? Peut-être ça évoque certaines histoires ou ça nous renvoie à certains moments de l'histoire de l'humanité où on a tenté comme ça où des hommes avaient droit de vie ou de mort sur d'autres hommes en fonction du regard qu'on posait sur eux. Ça pose aussi une question plus d'ordre pratique, ou en tout cas dans la décision. Un des côtés positifs, ça a le mérite de renvoyer au couple procréateur la responsabilité du devenir de ses embryons, mais je crois malheureusement, et c'est là peut-être aussi que c'est important de se situer, le couple n'est pas du tout préparé. Moi, de ce que j'en ai vu, les couples sont pas du tout préparés à avoir à se positionner par rapport à ces embryons. Ils sont souvent, me semble-t-il, placés devant le fait accompli. Je vous disais, ils rentrent dans un protocole, et on voit bien quand on est pris en charge par la médecine, on rentre dans un protocole où on comprend pas forcément tout. Et puis tout d'un coup, ils doivent se situer sur est-ce que vous êtes d'accord de congeler ces embryons? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on les détruise? Et il me semble que là, il manque vraiment toute une formation du couple pour s'être posé la question en amont, et pas une fois qu'il a 10 embryons présents. Et puis l'autre chose, il me semble, très concret, c'est que ces embryons, ils sont sous la responsabilité du couple parental, et en même temps, concrètement, ils sont aussi sous la responsabilité du médecin biologiste. Et donc, on a un peu l'impression d'un entre-deux avec un vide entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs études, Nouvel Obs, Figaro, je crois, qui ont fait des interrogatoires de couples, et beaucoup beaucoup parlaient d'un véritable dilemme éthique à ce moment-là, en disant, j'avais repéré quelques phrases, j'ai beau tourner la question dans tous les sens, je sais quelle décision prendre, ils sont notre patrimoine génétique et notre histoire, on tient à eux, c'est l'aboutissement de notre combat pour fonder une famille. C'est comme si je signais l'arrêt de mort de mes enfants. J'aurais l'impression d'un immense gâchis. Voilà. On sent qu'il y a un certain nombre de couples pour qui vraiment c'est une question, mais une fois que les embryons sont là, quoi. Et c'est vrai que ça nous interroge sur la situation actuelle. Alors pour revenir, pour finir sur cette question des embryons, je voulais redire quelques points qui peuvent nous aider pour nous, qui sont donnés par notre Église catholique. Donc, les documents les plus importants, c'est bien sûr Evangelium Vitae, et puis il y a deux documents de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle Le don de la vie, et puis Dignitas Personae, qui est sorti en 2008 récemment. Puis au niveau de la France, il y a eu tout un travail au moment de la révision des lois de bioéthique, pour vraiment essayer d'aider les Français, et les chrétiens, les catholiques, à mieux comprendre ces phénomènes et ce qui se passe. D'abord, bien sûr, l'Église catholique, elle remet en question, en amont, la production d'embryons et leur congélation. Et ensuite, elle va se positionner par rapport à l'embryon. Alors, elle non plus, je crois, par respect, pour l'instant, elle va pas se positionner sur le statut de l'embryon, sur exactement ce qu'il est. Par contre, sur notre attitude, elle insiste sur le fait que face à ce mystère, il doit être traité comme une personne. Et ça, c'est important. Elle insiste sur le nécessaire respect inconditionnel du fruit de la génération humaine, et ça dès le premier instant de l'existence, c'est-à-dire dès la fécondation. Et il y a trois mots, trois critères, il me semble, qu'il faudrait retenir. C'est la notion d'unité, c'est-à-dire la notion de, entre ce corps embryonnaire, c'est le même corps, même s'il va se développer, il est un. Et au moment de la naissance, c'est lui qui va devenir ce petit enfant, ce nouveau-né. Donc la notion d'unité entre le corps et la personne en devenir, et ça mystérieusement dès les premières cellules. Donc notion d'unité, la notion de continuité qu'on retrouvait déjà dans les dimensions biologiques, mais sur lequel on va insister, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de seuil visible à ce moment-là. Et puis la troisième notion, c'est la notion d'unicité, qui me paraît aussi importante. Et ça, dans les textes bibliques, on voit bien, dès l'embryon, je t'ai porté, je t'ai aimé. Il y a quelque chose d'unique. On croit que la personne est unique dès sa fécondation. Et pas uniquement par son capital génétique, mais par l'ensemble de ce qu'elle est. Il y a quelque chose d'unique à ce moment-là. Donc juste une citation de Evangelium Vitae qui dit « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, ça c'est important, qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. » Donc voilà. Et dans ce sens, bien sûr, du coup, elle insiste sur le fait que la dignité des embryons, comme celui des fœtus ensuite, ne peut être uniquement dépendant de la volonté d'une ou deux personnes, même si c'est ses parents biologiques. Il y a déjà quelque chose qui n'est pas la vie du père ni la vie de la mère. Donc voilà, j'ai été un peu longue sur les questions d'embryons, c'est peut-être celle qu'on connaît le moins, parce que l'AMP, ça reste encore quelque chose d'assez circonscrit. Peut-être vous avez des couples autour de vous qui vivent cette situation. J'ai envie maintenant de passer un peu plus loin dans la grossesse. On reste dans le domaine de cette vie intra-utérine, mais avec la question de ce qu'on appelle les interruptions médicales de grossesse. Donc là aussi, on est face au progrès de la médecine et aux conséquences du progrès de la médecine avec des questions nouvelles qui se posent. Je crois que, je sais pas si vous avez autour de vous des femmes enceintes, il y a vraiment une médicalisation croissante de la grossesse. De plus en plus, la grossesse est prise en charge de façon médicale, et entre autres avec un développement considérable de tous les moyens de dépistage de pathologies qui peuvent apparaître au cours de la grossesse. Donc entre autres les échographies qui sont systématiquement proposées, remboursées au moins 3 fois pendant la grossesse, tous les prélèvements sanguins, entre autres le dosage, ce qu'on appelle le dosage des marqueurs sériques pour repérer la trisomie 21. Donc il y a tout un arsenal, donc ça c'est des moyens de dépistage qui sont proposés à toutes les femmes enceintes et qui sont largement répandus, en particulier dans nos pays européens et français. Puis après on va développer aussi tout un arsenal de moyens qu'on appellera de diagnostic pour aller plus loin, pour découvrir la pathologie ou une éventuelle pathologie de l'enfant à naître. Entre autres il y a tout ce qu'on appelle l'amniocentèse, où on va prélever du sang fœtal, et donc pouvoir faire déterminer son patrimoine génétique. Donc grâce à tous les progrès de la génétique, on va pouvoir établir un lien étroit entre telle maladie génétique et tel risque pour l'enfant à naître. Et puis après, il y a toutes les techniques d'imagerie qui sont plus poussées, qui seront proposées que à certaines femmes, mais qui permettent vraiment d'avoir des moyens précis de mieux voir, de mieux accéder au fœtus dans le ventre de sa maman. On peut faire des scanners, on peut faire des IRM, enfin voilà. On peut faire énormément de choses maintenant, de plus en plus, et on voit vraiment, voilà, le fœtus, l'enfant à naître. Donc ça, bien sûr, cette meilleure prise en charge de la grossesse, elle a des conséquences très positives. Il s'agit de les reconnaître pour la femme, pour le fœtus. D'abord, pour la femme, une meilleure prise en charge de tous les risques qui peuvent... Donc il n'y a pratiquement plus de mortalité de la mère, ni pendant la grossesse, ni en couche. Et puis... Pour le fœtus, et ça c'est quand même aussi très nouveau, il y a la possibilité soit d'être sûr d'une bonne prise en charge au moment de l'accouchement, donc ça c'est déjà une bonne chose, si on repère une pathologie cardiaque par exemple, il peut dès la naissance être tout de suite pris en charge et on peut l'opérer d'emblée, donc ça c'est quand même de gros avantages. Et puis parfois même on développe des possibilités de traitement in utero, donc des drainages, des transfusions sanguines du fœtus dans le ventre de sa maman. Donc ça, c'est dans les perspectives thérapeutiques, et on espère bien sûr que les moyens de dépistage et de diagnostic vont amener à l'avenir à de plus en plus de moyens thérapeutiques sur l'enfant in utero. Le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que ces possibilités thérapeutiques sont encore très faibles, et que malheureusement, le plus souvent, quand on dépiste une pathologie ou un certain nombre de pathologies, on n'a rien à proposer au couple, à la mère, pour le fœtus. On peut dire, voilà, il a telle maladie. Par contre, on n'a pas de proposition thérapeutique à proposer. Et dans ce cadre-là, malheureusement, trop souvent, je crois, c'est l'interruption médicale de grossesse qui vient comme la seule proposition de la médecine à la pathologie découverte. Donc, il faut savoir que depuis la loi Veil de 1975, l'interruption médicale de grossesse est autorisée à tout moment de la grossesse. Donc ça, c'est une spécificité française. Il y a certains pays qui ont fait le choix que ce soit qu'au premier ou au deuxième trimestre. La France, c'est possible jusqu'à la veille de l'accouchement. Donc ça, c'est une spécificité de la France. Les critères, c'est lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc c'est, en même temps, c'est précis, donc forte probabilité, atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc c'est à la fois très précis et à la fois très large. Parce que forte probabilité, ça laisse un degré de... incurable au moment du deck, particulière gravité, enfin voilà. Donc il y a toute une question autour de la délimitation des critères. En même temps, ce qui est important de savoir, c'est que c'est très circonscrit. La loi française circonscrit et tout ce protocole d'interruption médicale de grossesse va se faire dans le cadre de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Et c'est dans ce cadre-là que le couple va demander une interruption médicale de grossesse qui lui sera ou non accordé, il faudra que deux médecins soient d'accord pour accorder l'interruption médicale de grossesse. En gros, en France, il y a à peu près 30 000 dossiers examinés par an et à peu près 7 000 interruptions médicales de grossesse qui sont acceptées. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après les chiffres, c'est toujours croissant. Il y a vraiment une augmentation significative année après année. Avec cependant toujours un certain nombre de couples, par exemple là dans les chiffres que j'avais 2008, il y avait à peu près 500 couples qui, malgré l'autorisation d'interruption médicale de grossesse, choisissaient de garder l'enfant. Donc voilà, il y a le respect aussi quand même de la décision du couple parental. Alors un petit mot sur la situation, je crois, exemplaire, paradigmatique de la trisomie 21 en France, qui est vraiment, à mon sens, qui vraiment doit nous interroger. Et devrait nous réveiller ou nous demander de nous positionner. C'était tout le drame du professeur Lejeune qui, en découvrant la trisomie 21, espérait découvrir les moyens de la soigner. Or, en fait, il dit « j'ai découvert le moyen de mettre un terme à la vie de ces fœtus dans le ventre de leur mère. » Puisque c'est une des rares maladies où on a un diagnostic de certitude. Une fois qu'on sait que l'enfant est porteur d'une trisomie 21, on sait qu'il aura une trisomie 21. Et donc, en France, on est vraiment dans une situation très particulière où presque 90% des trisomies 21 diagnostiquées pendant la grossesse ont pour conséquence une interruption médicale de grossesse. Et ça pose quand même vraiment de grosses questions, d'autant plus que depuis 2000, je crois, depuis 99, les médecins ont vraiment l'obligation de proposer le dépistage. Donc c'est vraiment un dépistage de masse proposé à toutes les femmes enceintes, quel que soit leur âge.